Et c'est reparti pour un nouveau coup de main pour l'emploi avec vous, forcément, Jérôme Laverny. Bonjour Jérôme.
Bonjour Benjamin.
Et on continue alors de parler de formation professionnelle ce matin. Et pas besoin cette fois-ci de sortir de gros chèques, hein, forcément, il n'y a pas besoin là.
Non, c'est ce qu'il faut avoir clairement à l'esprit. Beaucoup de gens imaginent se reconvertir, on le disait déjà là récemment, en demandant des devis, en essayant de voir le coût d'une formation et en passant à côté de formidables opportunités comme notamment les contrats de professionnalisation qui permettent à la fois des formations accélérées, rémunérées et donc gratuites.
Et on en parle avec Alexandre Stasi qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, fondateur d'Accueil Formation. Bonjour.
Bonjour.
Et soyez le bienvenu sur Sud Radio. Déjà, en quelques mots rapides, Accueil Formation, c'est quoi ?
Alors, Accueil Formation existe depuis une quinzaine d'années. C'est une formation qui prépare donc au métier de chargé d'accueil en entreprise. À la différence de l'hôtessariat qui est plutôt événementiel, on prépare une certification professionnelle reconnue de branche en alternance et, comme le disait Jérôme, en contrat de professionnalisation.
Mmh. Alors, comment ça marche ce certificat, justement ? Expliquez-nous un petit peu.
C'est très simple, c'est un certificat qui a vraiment été créé pour répondre à une problématique de valorisation de ce métier et puis de mise en place de compétences, puisqu'il y avait un recrutement important de la part dans ce secteur-là et qu'il y avait un problème d'attractivité. Donc on recrute des candidats dont la moitié sont n'ont pas le bac, ont d'autres types de formations, et on leur propose une formation pendant 6 mois, le matin à l'école et l'après-midi en entreprise, et on leur trouve l'entreprise d'accueil.
Jérôme Laverny.
Alors, est-ce que le métier d'accueil en entreprise peut être, c'est le cas de le dire, une porte d'entrée sur une évolution en lien avec des métiers plus administratifs pour les uns, plus commerciaux pour les autres, les services généraux, j'en sais rien. Est-ce que ça peut être une première marche dans une construction de carrière ?
Absolument, parce que on vise un public, on recrute sans qualification nécessaire, donc comme je le disais, plus de la moitié n'ont pas le bac, donc on rentre vraiment dans le type de public que vous prenez en charge au niveau des missions locales. Donc on a une vraie attractivité pour ces publics-là, mais on a un travail de remise à niveau des fondamentaux qu'on fait au niveau du français, au niveau de l'anglais, des soft skills, et au niveau d'une méthodologie. Enfin, ce qu'on met en place, c'est vraiment un accompagnement pour ce public qui est déconnecté du marché de l'emploi et qui galère. Mmh. Alors, aujourd'hui, on ne fait pas un métier toute sa vie. Donc, c'est une vraie. Une fois qu'ils ont acquis ces fondamentaux, il y a un emploi qui les attend et des possibilités d'évolution. Alors, soit vers l'accueil en entreprise, et d'autant plus que l'accueil s'est diversifié. On y a ajouté beaucoup de ce qu'on appelle de tâches administratives annexes. C'est pour ça qu'on met l'accent sur l'anglais, c'est pour ça qu'on met l'accent sur le pack office et voilà, sur des compétences qui sont vraiment indispensables, quel que soit le secteur d'activité aujourd'hui.
Donc, vous le disiez, donc, vous trouvez donc, l'entreprise pour l'alternance, pour ces 6 mois de formation. Une fois qu'on a le certificat, comment ça marche ? On est embauché facilement, rapidement ?
Alors, à plus de 80%, on est embauché en CDI.
Ah oui.
Donc ça, c'est vraiment une opportunité. Après, les jeunes aujourd'hui veulent gagner plus d'argent, ils sont ambitieux, le cadre, l'ambiance de travail sont des critères qui comptent aussi. Il y a quand même un turnover qui est important, mais ça leur permet pour certains de rester dans le secteur, d'évoluer vers des postes d'encadrement, de chef hôte ou chef hôtesse, ou d'aller bosser chez le prestataire d'accueil. Et puis d'autres vont reprendre le goût à faire des études en administration, en assistanat de direction, en assistanat médical, puisqu'on leur aura redonné confiance en eux et qu'on leur a permis d'avoir à nouveau de maîtriser la langue de français, enfin des choses qui n'étaient pas acquises au début et qui vraiment étaient des bloquants.
Entendons bien la synthèse, métier, l'accueil et formation accessible à tout profil, à condition d'avoir ce qui a été rangé sous le terme de soft skills, c'est-à-dire un sens clientèle en fait, hein, avec un réajustement d'informatique d'un côté, un peu d'anglais par là, et donc un marchepied vers une construction de carrière, donc l'opportunité de quelqu'un qui n'aurait pas forcément eu la possibilité de faire des études, de raccrocher un petit peu le train, si ce n'est de longues études, mais d'une formation relativement courte, qui tout en étant rémunérée, peut ouvrir de larges portes.
Exactement.
Eh bien, merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, Alexandre Stasi, fondateur d'Accueil Formation. Je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir été avec nous ce matin
merci
sur Sud Radio.
Beaucoup. À vous également, bonne journée, au revoir.
Merci à vous également, Jérôme Laverny. Vous, je vous dis eh bien, à demain pour un nouveau coup de main pour l'emploi.
À demain, Benjamin.
Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
Et 6h24 sur Sud Radio aujourd'hui, eh bien, on souhaite une bonne fête au Ella en ce premier jour du mois de février. Joyeux anniversaire également si vous êtes né bien un 1er février comme une certaine...
Qui a immortalisé Stéphanie de Monaco.
Eh oui, c'est violent fait comme ça, mais bon... Effectivement, bon anniversaire à Stéphanie de Monaco qui fête aujourd'hui eh bien, ses 57 ans, l'occasion de réécouter... Eh bien, comme un ouragan, cette chanson sortie à l'été 86 et qui avait été, figurez-vous, refusée à l'époque par Jeanne Masse. Bah oui, tant mieux, j'ai envie de dire, pour la princesse rebelle de Monaco qui vendra plus de 2 millions de disques dans le monde entier. Côté français, seul le groupe Image avec les Démons de Minuit réussira à faire mieux cette année-là. Allez, on continue en musique avec deux chanteurs qui étaient nés un 1er février également et qui nous ont quittés bien jeunes, malheureusement.
Laisse-moi t'aimer toute une nuit, laisse-moi toute une nuit. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire.
Ça donne des frissons, hein, vous l'entendez à l'instant, Claude François qui aurait fêté aujourd'hui son 83e anniversaire. Et puis juste avant, c'était Mike Brandt qui lui aurait eu 75 ans aujourd'hui. Allez, on poursuit avec deux dates qui ont marqué le pays, à commencer par le 1er février 1954. C'était le fameux appel de l'abbé Pierre en faveur des sans-logis. Puis plus récemment, c'est aussi un 1er février, le 1er février 2000, que la loi s'est décriée des 35 heures entrées en vigueur en France, ce après des débats très tendus à l'Assemblée nationale. En témoigne ce reportage diffusé à l'époque dans le journal de France 3.
On s'en doutait, le débat l'a confirmé. C'est un véritable fossé qui sépare majorité et opposition sur la loi des 35 heures. Pourtant, Martine Aubry s'est bien gardée de présenter ce texte comme l'arme absolue anti-chômage.
La réduction de la durée du travail n'est pas la solution unique, mais elle doit être engagée avec résolution car elle peut permettre beaucoup de création d'emplois.
Qu'importe cette relative modestie dans la présentation, c'est sur le principe même de ce texte qu'une partie de l'opposition se déchaîne.
Aucun pays au monde n'a jamais fait une bêtise pareille. Même les communistes à la grande époque en Russie ne parlaient pas de ça. Ils étaient stakhanovistes, ils voulaient que les gens travaillent davantage pour produire davantage.
À gauche, ce texte va surtout permettre de refaire une unité malmenée par la crise des chômeurs, ressouder la gauche plurielle.
Bah oui, une gauche plus que jamais divisée 20 ans plus tard, et ses 35 heures toujours au cœur de l'actualité de cette campagne électorale. Forcément, allez, 6h26 sur Sud Radio, le petit matin qui revient dans un instant avec à suivre le quintet, les pronostics de Jean-Paul Delperrier, la météo de Rémi André, les infos aussi, et puis la vie en vrai, 0826 300 300, le numéro, vous nous appelez pour passer à l'antenne, être avec nous justement si vous avez un message à transmettre. À tout de suite sur Sud Radio.
5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.
Et les chevaux sont là pour le quintet, les préférés de Jean-Paul Delperrier. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour à tous.
Et Jean-Paul, aujourd'hui, alors le quintet du côté de l'hippodrome de Cannes-sur-Mer.
Et tout à fait exact. Je vois que, comme d'habitude, vous êtes bien renseigné.
Ben oui.
Nous avons le prix Robin Capeux aujourd'hui proposé sur la piste en gazon. Sur la distance de 2500 mètres où ils seront 16 en piste. Le 9, Always the Welcome, un cheval très régulier, j'ai choisi en favori. Avec l'as Mister Nido, 11 Galactica, 3 Olympie, 7 Galloway, 14 Namasté, 4 Belgian Prince et 16 Chief of Store. 9, As, 11, 3, 7, 14, 4 et 16. En réunion de 3 courses 4 à Bordeaux-le-Bousca pour ma sélection du jour, le 6, Héroïne GM. Et encore hier, Benjamin, vous avez touché, il tire ses cartes.
Vous ne vous arrêtez plus. Merci beaucoup Jean-Paul Delperrier. Pronostic eh bien, à suivre et à revoir hein, bien sûr sur le site sudradio.fr.
La météo Sud Radio.
Bonjour Rémi André.
Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde.
Au programme, du côté de la météo, pas mal de nuages encore et attention au vent hein, toujours aujourd'hui. Hein.
Ah oui, le vent qui souffle fort, la tramontane s'est renforcée. Ce matin, elle souffle sur le Cap Béar à 139 km par heure. Vous voyez, ça souffle de côté de Marseille, de Toulon. Là aussi, on a des rafales sur les caps qui dépassent les 120 km par heure. Du vent encore donc près de la Méditerranée, mais ce vent nous amène du soleil, puisque depuis les Pyrénées jusque vers la Méditerranée, le sud des Alpes, nous conserverons encore pas mal de soleil aujourd'hui. Ailleurs, eh bien, on se retrouve encore avec pas mal de grisailles. Attention, entre Bordeaux et Mont-de-Marsan, vous avez du brouillard, c'est du brouillard givrant. Et sur la moitié nord, bien, ce sont beaucoup de nuages. Alors, c'est cette perturbation, celle d'aujourd'hui, va surtout circuler depuis les Hauts-de-France. On a quelques gouttes ce matin, jusque vers le nord-est, mais elle débordera un petit peu sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, un petit peu le Limousin, le centre. Sur ces régions, on aura beaucoup de nuages et un petit peu d'humidité. Mais depuis la Bretagne jusqu'en Aquitaine, malgré les nuages, le temps restera plus sec. Quant aux températures, elles seront comprises globalement entre 6 et 11 degrés de maximum.
Merci beaucoup, Rémi André. Excellent début de journée avec Sud Radio. Nous sommes le mardi 1er février, il est à 6h30. Sud
Radio. Parlons vrai.
Et c'est l'heure du journal avec vous Mathieu Bélissario. Bonjour Mathieu.
Bonjour, bonjour à tous. Dans ce journal, on reviendra sur la première journée hier au procès de Nordal Lelandais, journée éprouvante pour la famille de la petite Maëlys. L'ancien maître chien a en effet reconnu qu'il avait bien donné la mort à la fillette en août 2017 avant de s'excuser. Nous sommes le 1er février, plusieurs changements dans votre quotidien aujourd'hui, quelques mauvaises nouvelles mais aussi des bonnes, on vous dira lesquelles. Et puis le foot, Paris éliminé de la Coupe de France, le PSG a été sorti hier soir en 8e de finale par Nice. Défaite au tir au but, le gardien niçois prêté par le PSG a été le grand bonhomme de la soirée, vous l'entendrez. Une première journée éprouvante hier au procès de Nordal Lelandais devant les assises de Grenoble. Dès l'ouverture de l'audience, l'ancien maître chien de 38 ans a reconnu le meurtre de la petite Maëlys à Pont de Beauvoisin en 2017 lors d'une fête de mariage, tout en soutenant qu'il l'avait tuée involontairement. Nordal Lelandais qui a aussi présenté ses excuses à la famille, des excuses accueillies avec beaucoup de prudence selon l'avocat du père de Maëlys, maître Laurent Boguet. Écoutez.
Qui s'excuse, eh bien, il faudra voir effectivement ce que la famille décide d'en faire, mais j'ai cru comprendre qu'elle était un peu courroucée par la manœuvre, qu'elle juge peut-être un peu tardive et sans doute pas suffisamment investie, et puis au-delà, qu'il veuille s'expliquer, je l'appelle tout à fait de mes voeux, parce que je crois qu'il y a effectivement d'importantes zones d'ombre qui sont la résultante de ces prises de position, et que si aujourd'hui il est décidé à nous en parler, eh bien, sa parole sera la bienvenue.
Le procès de Nordal Lelandais qui doit reprendre ce matin à 9h devant les assises de Grenoble, le frère de l'accusé ainsi qu'une ex-petite amie seront notamment entendus à la barre. Dans l'actualité également, Orpea, dans la tourmente mise en cause la semaine dernière dans un livre qui l'accuse de maltraiter ses résidents, le groupe d'EHPAD privé a limogé dans la foulée son directeur général. Ses dirigeants sont maintenant convoqués ce matin à 9h15 par la ministre chargée de l'autonomie Brigitte Bourguignon. Par ailleurs, de nombreuses familles ont déjà annoncé qu'elles allaient demander réparation en justice. Elles vont lancer une action collective conjointe contre le groupe Orpea. Nous sommes le 1er février, vous en avez l'habitude maintenant comme à chaque début de mois, plusieurs changements à prévoir dans votre quotidien et pas forcément pour le meilleur. Il y a notamment la hausse des tarifs des péages, plus 2% en moyenne ou encore celle des prix du tabac. Mais il y a aussi de quoi se réjouir, Léo Molinier, avec quand même quelques bonnes nouvelles.
Oui, à commencer par les prix de l'électricité. Alors oui, ils augmentent dès aujourd'hui 4% en moyenne, mais c'est beaucoup moins que prévu grâce à l'action du gouvernement qui a souhaité protéger le pouvoir d'achat des Français. L'autre bonne nouvelle du jour, elle concerne le livret A, le placement préféré des Français. Son taux augmente à partir d'aujourd'hui. Il passe à 1% contre 0,5% auparavant. Et puis une nouveauté à signaler en ce 1er février, ça se passe dans les maternités des communes ayant des quartiers prioritaires. Des bébés box vont être distribués aux parents des nouveau-nés, 180 000 au total, avec à l'intérieur turbulettes, savons et produits hydratants pour venir en aide aux familles les plus modestes.
Et d'ailleurs, si l'expérience est concluante, eh bien ces bébés box pourraient être étendus à toutes les maternités cet été. L'actualité à l'étranger, le torchon brûle entre Paris et Bamako. La France dit prendre note de l'expulsion de son ambassadeur au Mali, une décision prise par les autorités maliennes pour dénoncer des propos jugés hostiles de la part des autorités françaises. Les relations entre les deux pays ne cessent de se détériorer depuis le coup d'État de la junte militaire en août 2020. En Allemagne, deux suspects interpellés après le meurtre de deux policiers lors d'un contrôle routier hier matin à Kusel, à l'ouest du pays. L'un d'entre eux, un homme de 38 ans, aurait ouvert le feu sur les deux agents. Selon le média allemand Bild, les deux suspects seraient des braconniers. On passe au sport, le foot, et c'est terminé pour le PSG, éliminé de la Coupe de France. Paris a chuté hier soir en 8e de finale, battu à domicile par Nice au tir au but. Il y avait 0-0 à la fin du temps réglementaire. Côté niçois, le héros de la soirée s'appelle Marcin Bulka. Le gardien de but prêté par le PSG a été décisif dans la séance de tir au but. Il n'a pas vraiment fait de cadeau à ses anciens coéquipiers parisiens, écoutez.
Franchement, c'est la folie un peu. Moi, j'ai tout respect pour PSG parce qu'en plus, je suis prêté de ce club que j'aime. Aujourd'hui, on s'élimine parce que c'est football. On est arrivé ici pour gagner. Et on a fait, tous ensemble. Et ma famille, elle est là. Et en plus, c'était le premier match qu'ils ont regardé en réel. Donc pour eux, c'était encore plus d'émotion. Oui, c'était très important et je suis content qu'on ait qualifié.
Voilà, et désormais on connaît les affiches des quarts de finale de la Coupe de France. Nice affrontera l'OM, les autres rencontres, Bergerac-Versailles, Nantes face à Bastia et Monaco contre Amiens. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, c'est la fin de ce journal. Très bonne matinée à tous, à l'écoute de Sud Radio.
Merci à vous, messieurs Bélissario.
Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
Oui, désolé mon cher Mathieu, en régie on me dit bien c'est Mathieu et pas Mathieu, mais voilà, je me suis un peu, j'ai été trop vite, voilà, tout simplement. En tout cas, 6h36, un excellent réveil avec Sud Radio. Bah oui, c'est le début de ce mois de février, je suis ravi de vous accompagner encore une fois ce matin, avant de céder la place à partir de 6h50 à Cécile de Minibus et Patrick Roger. Pas mal de choses d'ici là avec Curieux comme Rémi, en l'occurrence avec Rémi André, et puis hashtag on en parle sur les réseaux sociaux, on reviendra sur cette gauche plus que jamais divisée, et sur l'appel de Christiane Taubira aux autres candidats de la gauche. C'est un peu la spécialité en ce moment à gauche, c'est les coups de fil téléphoniques. Voilà, on essaye, on s'appelle et tout, sauf que bah, en général ça répond pas trop en ce moment. On le verra en l'occurrence entre Christiane Taubira et Jean-Luc Mélenchon. Mais pour l'heure, 6h37, et bien tout de suite c'est La Vie en Vrai sur Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio, La Vie en Vrai.
Et La Vie en Vrai, vous êtes les bienvenus. Un numéro 0826 300 300. Aujourd'hui, on file du côté d'Avignon. Bonjour Charlotte Trossa.
Bonjour.
Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la fondatrice d'À Côté, marque de soupe et d'autres préparations bio à base de fruits, de légumes. C'est quoi un peu la particularité, racontez-nous, de ces soupes notamment et de ces préparations que vous proposez du côté et bien de cette marque?
Alors, À Côté, c'est une marque effectivement de produits qui sont en bocaux en verre et qui sont vendus principalement en magasin bio, mais aussi dans des épiceries de produits locaux, épiceries fines, quelques restaurateurs, etc. Ce sont des produits que l'on fabrique uniquement à partir de fruits et légumes bio, locaux, et surtout issus d'écarts de tri. C'est-à-dire que les agriculteurs, tous les légumes qu'ils ont du mal à vendre ou qu'ils ne vendent pas ou qu'ils jettent, parce qu'ils sont en dehors des calibres et des standards, parce qu'ils sont trop gros, trop petits, tachés, tordus, ou tout simplement en surplus, ouais, on leur achète et on les cuisine dans notre atelier, notre conserverie sur Avignon, qui s'appelle Local en Bocal, et voilà.
Avec l'idée donc de lutter d'une certaine façon contre le gaspillage, et avec un réseau d'agriculteurs partenaires que vous avez aussi, d'agriculteurs locaux, comment ça se met en place justement, ce réseau-là?
C'est un travail de longue haleine, en fait. On construit petit à petit des relations de confiance avec les producteurs. On travaille avec une soixantaine de producteurs. Certains beaucoup, d'autres de façon plus ponctuelle. En fait, les producteurs qui travaillent en circuit long, qui ont d'assez gros volumes, ont beaucoup d'écarts de tri et ne savent pas qu'en faire. Il y a beaucoup de fruits et légumes qui sont jetés. Ouais. Et du coup, certains comprennent tout de suite l'intérêt de bosser avec nous, parce que bien plutôt sûr, que de jeter, ouais. On valorise, on vend certes moins cher, mais enfin on vend quand même une partie de ses légumes. Et puis avec d'autres, il faut montrer qu'on est des partenaires sérieux, qu'on paye bien, qu'on récupère leur caisse, on essaye d'être dans une relation gagnant-gagnant, donnant-donnant.
Ouais, bien sûr. Ouais. Vous évaluez à combien d'ailleurs la quantité de légumes, de fruits ainsi sauvés?
Alors nous, là, cette année, je pense qu'on va cuisiner à peu près 200 tonnes de légumes, entre guillemets, moches.
Oui, c'est comme voilà. Ça qu'on les appelle, effectivement. Ouais. 200 tonnes à peu près.
Oui, c'est énorme. Ouais, en un an, oui, tout à fait.
Avec quoi comme recette que vous proposez, notamment? Il y en a beaucoup hein, sur le site internet. Ouais, alors, on peut donner le site. Hein. Donc, c'est a-6-sans-accent.bio, notamment hein, sur le site internet où on peut regarder tout ça. Vous avez quoi comme recette pour nous donner quelques exemples?
On a une jolie gamme de soupes, nos best-sellers. Là, en hiver, on a une soupe de potimarron aux châtaignes, on a une soupe de légumes d'hiver au thym qui est délicieuse. On a une soupe de courgettes au zeste de citron et au curcuma. Une minestrone aussi qui ressemble un peu à une soupe au pistou qui est très sympa. Après, on a toute une belle gamme de purées de fruits sans sucre ajouté, toujours avec des fruits locaux, hein, bien entendu.
Bah oui, ouais.
Des tartinables pour l'apéritif et des préparations pour tabouler. Ça, c'est un peu notre produit innovant. C'est une préparation que vous versez dans un saladier. Vous mettez 100 grammes de semoule de couscous cru, enfin sèche.
Ouais, ouais.
Vous laissez gonfler une heure et voilà, vous avez une salade toute prête.
Ben voilà, plein de bonnes idées. Et puis, je pense que je vais peut-être faire un tour hein, du côté du site. Merci beaucoup, en tout cas, Charlotte Rossa, de nous avoir présenté tout ça. Info d'Atrice, je le rappelle, d'à côté, hein, cette marque de soupe, notamment, mais pas que, hein, et autres préparations bio, en l'occurrence, de second choix, les fameux fruits et légumes moches. Merci à vous, Charlotte Rossa, et bonne journée à vous.
Merci, bonne journée.
Allez, 6h41 sur Sud Radio. Tout de suite, on file rejoindre Rémi André.
Sud Radio, curieux comme Rémi, Rémi André.
Curieux comme Rémi et comme cette tempête solaire hors norme. Les plus grosses éruptions solaires apparaissent pendant les périodes d'activité les plus intenses de notre étoile. Rémi, c'est plutôt étrange d'évoquer ce sujet en ce moment parce que personne ne nous a parlé de tempête solaire ces derniers jours.
Mais vous avez bien raison,
enfin, je crois.
Car la tempête solaire dont je souhaitais vous parler aujourd'hui a eu lieu il y a plus de 9000 ans. Alors comme nous en avons parlé ici régulièrement, nous savons que le soleil est en perpétuelle activité. Il abrite en son cœur une réaction thermonucléaire qui dégage de la lumière et un vent solaire qui vient ensuite frapper notre planète. Parfois, il est le théâtre de puissantes éruptions lors de ses pics d'activité, à peu près tous les 11 ans. Les éruptions solaires restent donc encore difficiles à prévoir, mais les astronomes s'accordent à dire qu'elles se produisent de préférence lors des phases les plus actives de notre Soleil, celles au cours desquelles apparaît aussi le maximum de taches solaires. Pourtant, des chercheurs de l'université de Lund en Suède montrent aujourd'hui qu'une importante éruption s'est produite il y a environ 9200 ans, une période connue pour avoir été parmi les moins actives de notre étoile.
Et alors comment on arrive à calculer qu'une telle éruption a eu lieu il y a 9200 ans, Rémi ?
Eh bien, lorsqu'une telle éruption survient, des particules cosmiques de haute énergie arrivent jusqu'à la Terre. Elles produisent alors des isotopes radioactifs de béryllium-10 ou de chlore-36. La trace de ces pics peut être conservée dans la glace ou dans les sédiments. Ce sont donc des carottes de forage, on ne fait pas de soupe avec celle-là bien entendu, des carottes de forage venues du Groenland et de l'Antarctique que les chercheurs ont analysées à la recherche de tels pics. Un travail qu'ils qualifient de long et coûteux mais qui a porté ses fruits. Les quantités de béryllium-10 et de chlore-36 trouvées dans les carottes de glace indiquent qu'une tempête solaire majeure, jusqu'alors inconnue, s'est produite pendant une période de faible activité de notre Soleil.
Mais en quoi c'est si important ce genre de découverte ?
Eh bien, les chercheurs estiment que si une tempête solaire de cette ampleur venait à frapper la Terre aujourd'hui, les conséquences seraient importantes. Des pannes de courant, des dommages causés aux satellites, un risque pour le trafic aérien et les astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale. Et même, possiblement, un effondrement de nos systèmes de communication, d'où l'importance de continuer à essayer de mieux les prévoir et d'apprendre à s'en protéger.
L'espoir de pouvoir prévoir des événements comme celui de Carrington ?
Alors, un événement majeur survenu en 1859, observé alors par un astronome amateur du nom de Carrington, il s'agissait d'une éjection d'un plasma de particules qui a atteint la Terre en seulement 17 heures, le temps du trajet pour ce genre de colère solaire d'ordinaire de 60 heures. Le champ magnétique de la Terre s'est brusquement intensifié, tout en fluctuant fortement, produisant ce qu'on appelle un orage magnétique. Plus de particules énergétiques ont atteint les sommets de l'atmosphère terrestre, il en a résulté d'incroyables aurores boréales. On dispose de témoignages indiquant qu'il était possible de lire un journal en pleine nuit du fait de la lumière aurorale jusqu'à des latitudes aussi basses que celles du Panama. Heureusement, statistiquement, il ne doit se produire ce genre d'événement que deux fois par millénaire. Mais au 19e siècle, l'événement de Carrington avait fortement perturbé les télécommunications, alors par télégraphe électrique.
Ben oui, merci beaucoup Rémi André. Allez, 6h44 sur Sud Radio. On revient dans un instant avec l'arrivée de Cécile Ménébus et de Patrick Roger. Et puis juste avant cela, hashtag on en parle sur les réseaux sociaux avec la gauche dans tous ces états, bientôt deux mois du premier tour de l'élection présidentielle. A tout de suite sur Sud Radio.
5h-10h, le grand matin Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
6h47, c'est le rappel des titres sur Sud Radio. Je veux leur présenter mes excuses. J'ai bien donné la mort à Maëlys. Les mots de Norda Lelandais hier, au premier jour de son procès à Grenoble. Il a redit avoir tué l'enfant sans en avoir néanmoins l'intention. Les dirigeants d'Orpea reçus aujourd'hui par la ministre en charge des personnes âgées, accusées de graves manquements dans la prise en charge des résidents de ces maisons de retraite. Orpea s'expose désormais à une action collective des familles devant la justice. Au Mali, c'est une décision d'une rare hostilité à l'égard de la France. La junte militaire au pouvoir a décidé d'expulser l'ambassadeur français. Réaction au propos du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, qui a jugé la semaine dernière que les militaires au pouvoir au Mali étaient illégitimes et irresponsables. Et puis en Coupe de France, Nice élimine le Paris Saint-Germain, double tenant du titre, en huitième de finale de la Coupe de France à l'issue d'une séance de tirs au but. Les Niçois qui affronteront en quart de finale l'Olympique de Marseille. De son côté, Bergerac accueillera l'autre club de National 2, Versailles. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, avant de retrouver Cécile Ménébus, c'est Patrick Roger, c'est hashtag on en parle sur les réseaux sociaux. Et à bientôt, deux mois du premier tour de l'élection présidentielle. La mode en ce moment, clairement, à gauche, c'est un peu le coup de fil à un ami.
Bonjour Jean-Luc, c'est Arnaud Montebourg. Parlons-nous dans la journée, ce serait vraiment utile.
Ben oui, ça, effectivement, amitié. Et après, Arnaud Montebourg qui s'est finalement rangé, eh bien c'est Christiane Taubira qui a tenté cette fois-ci de joindre les principaux candidats de gauche pour trouver un compromis, une voie de rapprochement. Mais l'initiative de celle qui viendra emporter, sans surprise, la primaire populaire n'a pas forcément été très bien accueillie, notamment de la part du candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, dont le SMS de réponse a malencontreusement fuité dans la presse. Un message plutôt au goût amer que l'on peut lire. « Je t'avais cru, dit-il, quand tu regrettais le nombre de candidatures. Tu y rajoutes dorénavant la tienne, mais je n'en veux qu'à ma confiance. » Jean-Luc Mélenchon qui explique son refus d'avoir Taubira de vive voix par téléphone car il a gardé un souvenir attristé de leur contact précédent. Pour autant, il n'est pas totalement fermé à la discussion. Il le raconte, il pose en revanche une condition préalable. L'arrêt immédiat, je cite, des appels à bloquer les parrainages qui sont un mépris inacceptable et qui, selon lui, desservirait sa candidature et de poursuivre hein, Jean-Luc Mélenchon toujours dans ce texto. Cette violence venant après mon inscription de force dans votre opération, celle de la primaire populaire, est à mes yeux contradictoire avec une volonté sincère de dialogue. D'ailleurs, pour rappel, hein, l'envoi des parrainages officiels est ouvert depuis jeudi dernier. Jean-Luc Mélenchon a déjà alerté sur le sujet sur les réseaux sociaux hier, eh bien, expliquant qu'un grand nombre d'élus concernés n'auraient pas encore reçu leur formulaire. Les parrainages qui semblent encore une fois poser beaucoup de questions pour cette élection présidentielle avec donc cette alerte de Jean-Luc Mélenchon qui alerte notamment en disant méfiance, ce souvenir du chaos au régional. Voilà qui est dit. Allez, 6h49 sur Sud Radio, tout de suite c'est l'heure d'accueillir Cécile de Minibus et Patrick Roger.
Le Grand Matin Sud Radio 5h-10h, Patrick Roger, Cécile de Minibus.
Bonjour et bienvenue Cécile et Patrick.
Ça va et vous? Bah écoutez, très bien.
Vous voulez qu'on revienne un petit peu ce que vous avez évoqué en fait tout à l'heure là, les coups de fil et Taubira oui. Avant-hier. Bah écoutez ce petit montage de Jamel, notre réalisateur des vraies voix.
Regardez là-haut dans le ciel.
C'est un oiseau?
C'est un avion?
C'est Madame Christiane Taubira.
Je veux vous dire que je mesure la confiance que vous me témoignez.
En plus de sa merveilleuse force physique,
Madame Christiane Taubira
combat sans fin pour la vérité et la justice.
Je prendrai l'initiative d'appeler les autres candidats.
C'est Arnaud Montebourg, j'espère que ça va.
J'appellerai Anne.
Allô, je vous écoute.
J'appellerai Yannick.
Allô? Allô?
J'appellerai Jean-Luc.
Moi? Mais qui elle est celle-là?
Et merci d'être dès demain les chevilles ouvrières d'une possible victoire. En avril 2002.
Bravo Jamel. Hein.
Ben voilà, ouais. Jamo. Ouais. Jamel.
Ouais, super,
en quelques
super
mots,
montage,
évidemment,
ouais.
Tout est résumé sur cette atmosphère de campagne électorale, notamment à gauche. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Lydia Guirouz dans son édito. Notre invité politique, ce sera le président de la région Grand Est, Jean Rottner, qui sera avec nous, soutien de Valérie Pécresse. Il reviendra aussi sur le Covid, parce que c'est le premier qui avait véritablement alerté, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu le Covid, il y a tout juste 2 ans. Ouais. C'était en Alsace, du côté de Mulhouse. Il sera notre invité. Et puis beaucoup d'autres questions aussi ce matin autour du pouvoir d'achat. On vous redonnera toutes les questions tout à l'heure avec Cécile. Vous pouvez voter en tout cas sur les réseaux sociaux.
Absolument. Restez avec nous tout de suite. Sud Radio à votre service.
Sud Radio à votre service.
Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.
Et on parle des entreprises et effectivement des commerces, des artisans, des professions libérales. Olivier Leboucher est avec nous. Bienvenue. Bonjour.
Bonjour Cécile.
Vous êtes le président de Petit Fils, qui est un service à domicile pour personnes âgées en perte d'autonomie. Ce matin, on va voir avec vous les auxiliaires de vie et l'importance des auxiliaires de vie, puisque plus que jamais, l'aide à la personne est un enjeu important face à la population vieillissante.
Oui, vous avez tout à fait raison. L'auxiliaire de vie est une cheville ouvrière pour prendre en charge les personnes âgées, nos parents, nos grands-parents et les personnes handicapées. Être auxiliaire de vie, c'est souvent un métier difficile, avec beaucoup de déplacements, des horaires compliqués.
On l'a vu là pendant le confinement, comme c'était compliqué.
Exactement. Des salaires qui sont souvent proches du SMIC, enfin voilà. Et un agenda plein de trous, plein de gruyères, comme on dit. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un métier compliqué. Et chez Petit Fils, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Toutes les équipes sont focalisées pour améliorer le quotidien de ces auxiliaires de vie. On va limiter le nombre d'interventions par jour, oui. Très important pour nous. Mm-hmm. Pas plus de 2 à 3 personnes âgées à prendre en charge, avec de longues interventions de 2 heures. Des missions et des plannings qui sont choisis, c'est juste essentiel. et un salaire au-dessus des standards de la profession et un CDI dans la majorité des cas.
Et là, vous avez mis en plus en place un partenariat avec un expert hein, dans le domaine de la formation sanitaire et sociale, c'est la Croix-Rouge.
Oui, tout à fait, on en est très fiers d'ailleurs. Nos critères de sélection sont très précis. Nous travaillons avec des auxiliaires de vie qui sont diplômés et qui ont au moins 3 ans d'ancienneté. Et un certain nombre des auxiliaires de vie n'ont pas ce diplôme. Donc on a mis en place avec la Croix-Rouge tout un parcours de certification avec une évaluation finale. Mmh. Et ce certificat, il est une vraie reconnaissance de l'expérience et du savoir-faire de l'auxiliaire de vie.
En plus, il y a pas mal de reconversions aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en deuxième partie de vie professionnelle, on s'oriente souvent vers ces métiers.
Tout à fait, et c'est souvent des gens qui nous rejoignent après 40 ans, après 50 ans effectivement, et qui décident d'intervenir à domicile, avec une certaine autonomie d'action, c'est ce qui les anime. Et puis c'est un métier de vocation, s'occuper de nos parents et de nos grands-parents, c'est beaucoup d'engagement. Et c'est ce que recherchent les auxiliaires de vie.
Et on le voit en ce moment dans l'actualité, malheureusement. Chez vous aussi, ce qui est important, alors le mot petit-fils montre un côté filial, c'est vraiment la compagnie, outre la prise en charge, c'est vraiment aussi l'aspect compagnie entre l'auxiliaire de vie, finalement, et la personne dont elle a la charge.
Oui, l'auxiliaire de vie, elle est là pour, bien sûr, aider la personne âgée, la personne handicapée, pour les gestes du quotidien, les gestes essentiels, mais c'est aussi, comme on dit nous, une dame de compagnie, une personne effectivement qui va prendre du temps avec la personne âgée. C'est pour ça que nous essayons d'avoir des interventions de 2 heures à la maison. L'auxiliaire de vie va faire les courses avec la personne âgée quand elle peut sortir, elle va lui préparer son repas, elle va s'occuper de sa maison, voilà, et elle va surtout prendre du temps avec elle, jouer avec elle, discuter avec elle, c'est essentiel.
On connaît hein, l'impact effectivement sur le moral, des personnes âgées, ça permet de lutter contre l'isolement aussi surtout.
Oui, c'est essentiel. On a beaucoup effectivement de personnes âgées qui sont très seules ou leurs enfants sont loin de chez eux. Et l'auxiliaire de vie effectivement est ce lien du quotidien.
Les objectifs pour la suite, parce que je sais que le secteur est un peu en tension aujourd'hui. Le but est de recruter de nouvelles personnes.
Oui, je vous le confirme, le secteur est en tension et notre objectif, c'est très clairement de trouver des auxiliaires de vie. On a plusieurs milliers de postes à pourvoir d'auxiliaires de vie sur toute la France afin de prendre en charge les personnes âgées.
Et je sais qu'en local, il y a des opérations de portes ouvertes qui vont commencer début février, justement.
Bien sûr, tout à fait. Un peu dans toutes les agences petit-fils à travers la France, on a des portes ouvertes d'ici 10 jours et on a lancé notre première campagne de communication nationale pour faire connaître ce métier d'auxiliaire de vie, rappeler que ces personnes font ce métier par vocation et dans des conditions de travail qui, chez Petit-Fils, font aimer leur quotidien. C'est vraiment notre objectif.
Eh bien, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Olivier Leboucher, président de Petit-Fils, donc ce service à domicile pour personnes âgées en perte d'autonomie. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. On est avec vous jusqu'à 10h. Et dans quelques instants, la météo. À tout de suite.
Sud Radio à votre service.
Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.